Chapitre 26. Roman descendit l'escalier, la bouche pâteuse et l'esprit encore encombré des fantômes qui avaient hanté ses rêves. Il mettait son état sur le compte de ses excès de la veille et d'un sentiment de culpabilité. Oui, la culpabilité était forcément un facteur déterminant. Lorsqu'il posa le pied sur le palier, il s'immobilisa. Khalil était assis à la table de la cuisine, vêtu d'un caban noir et coiffé d'un bonnet de la même couleur. « Un de ces quatre, il va vraiment falloir que tu m'expliques comment tu fais ça », dit Roman en se dirigeant droit vers la cafetière. « C'est un vieux secret jamaïcain. Quand j'ai vu que t'étais tout seul à la maison, j'ai pensé qu'on pourrait discuter tranquillement. » « Ouais, Nevea devait se lever tôt pour aller à la boutique. Je crois que Dante est avec un pote, celui dont la copine a pris un coup de machette l'autre soir. » Roman alluma la cafetière et s'assit en face de son ami. « La pression commence à se faire sentir », dit Khalil. « Ils ont renforcé la sécurité dans leur planque. Les nanas qui descendent en Caroline du Sud avec la drogue sont désormais systématiquement accompagnées et il y a des gardes pour protéger les chargements d'armes qui arrivent de Roanoke et de Christiansburg. D'après toi, combien de temps tu vas encore devoir faire semblant d'apprécier leur compagnie avant qu'on lance la prochaine opération ?»«
Au moins 3 semaines. » On a renvoyé le contrat signé il y a quelques jours. On a commencé la démolition des propriétés que j'avais conseillé à Torrent d'acheter pour pouvoir les revendre à l'État. Le maire a reçu son premier versement. À côté de ça, je continue à multiplier les montages financiers pour faire fructifier l'argent de Torrent et Tranquil. Bien sûr, leurs hommes n'en voient pas la couleur. C'est comment de bosser avec eux ?
Roman se frotta le visage avec les deux mains. Tu connais la citation de Machiavel qui dit qu'il vaut mieux être craint qu'être aimé ? Parce que les gens peuvent arrêter de t'aimer, mais s'ils ont peur du châtiment, ils n'arrêteront jamais de te craindre. Eh ben, Torrent applique cette doctrine à l'extrême. Hier soir, on était au Kingdom pour fêter la signature du contrat et la rentrée d'argent colossale que ça allait représenter. Un de leurs hommes, Tank, a eu le malheur de faire tomber quelques gouttes de sa boisson sur la chaussure de Torrent, qui a demandé à son frère de le tabasser à coups de crosse de pistolet. Tout ça pour un verre renversé. C'est la pression. On devrait d'ailleurs la faire monter d'un cran. Non, c'est pas la pression. Il est simplement comme ça. J'ai connu un mec qui bossait pour un cartel de Miami qui s'appelait les Machados. À ce qu'il m'a raconté, son boss n'était pas très différent de Torrent. C'est des gars qui respectent rien ni personne. Ils peuvent décider de te buter aux premières gares juste parce qu'ils en ont la possibilité. Parce que quelqu'un leur a dit que c'était eux les patrons. C'est comme l'aphorisme bien connu de Lord Acton. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Quand on travaille pour des gens pareils, ça peut se terminer que d'une seule façon. En cendres. C'est effectivement une manière de voir les choses. L'amour n'est peut-être pas éternel, mais la crainte aussi a ses limites. À un moment, on finit par en avoir assez d'avoir peur. Je me demande si les hommes de Torrent ont atteint ce stade. La cafetière émit un bip et Roman se leva pour servir 2 tasses. Il posa celle de Khalil sur la table et but une gorgée de la sienne. Pas encore. Mais ça devrait plus tarder. Je suis censé rejoindre Torrent et Tranquil tout à l'heure. On a rendez-vous avec leur fournisseur. Apparemment, il a entendu dire que j'avais un don avec l'argent. « Leur fournisseur de quoi ?» demanda Khalil. « De tout. Tu veux que je te suive ?»«
Non, » fit Roman en secouant la tête. « Tranquil peut toujours pas me blairer, mais je lui ai fait gagner tellement de pognon en moins d'un mois qu'il tentera rien. Par contre, je pense qu'une livraison d'armes qui dérape pourrait augmenter la pression sur les frères Gilchrist. Et par ricochet sur leur sous-fifre.
Pas de problème. Il me faudra 2 hommes. » Est-ce que c'est jouable pour toi, financièrement parlant ?
T'inquiète pas pour l'argent.
Est-ce qu'on fait à nouveau porter le chapeau au Ghost Town Crew ?
Non. Je crois qu'ils ont leur compte. Ils peuvent pas l'emporter, surtout après les dernières offensives de Torrent. Les BBB sont trop puissants. À mon avis, il vaut mieux que ça ait l'air de venir d'ailleurs. Les Gilchrist en sortiront encore plus affaiblis.
Il y a un club de bikers qui s'appelle les Sang Purs. Des gros trafiquants d'armes. On pourrait faire croire que c'est eux. Si Torrent décide de se venger, ça ouvrira la guerre sur un deuxième front.
Ça me va.
Par contre, je préfère te prévenir, c'est une opération qui pourrait valoir à quelques mecs des BBB de ne pas être rentrés à l'heure pour le dîner, si tu vois ce que je veux dire. C'est bon pour toi ?
Roman but une autre gorgée de café.
Au-dessus de l'épaule de Khalil, il y avait une fenêtre qui offrait une vue imprenable sur le jardin. La pelouse jaunie méritait une bonne tonte, surtout que malgré les températures plutôt basses, l'herbe avait commencé à envahir l'allée. Il fallait aussi tailler les buis et pailler les rosiers de part et d'autre du porche. Malheureusement, il ne pensait pas que son père remonterait un jour sur son vieux tracteur tondeuse à trois vitesses. Le printemps le trouverait toujours étendu sur son lit d'hôpital, refusant de se réveiller ou de lâcher prise, tandis que les aides-soignantes continueraient à se relayer pour lui couper les ongles et lui changer ses couches et ses perfusions. Torrent et ses hommes étaient responsables. Les choses avaient peut-être commencé avec Dante, mais c'était Torrent et son absence d'empathie qui avaient plongé leur père dans le coma. Si les BBB ne l'avaient pas tué, il se fichait éperdument de son sort. À présent, Kiss était prisonnier entre la vie et la mort. Ce qui, quelque part, était pire que s'il avait rendu l'âme écrabouillée dans sa camionnette sur cette voie ferrée sordide, à 2 kilomètres du chemin d'accès où on avait retrouvé la voiture de sa femme, toutes ces années auparavant. Le destin est un train lancé à pleine vitesse. Parfois, on a le temps de traverser devant lui, parfois c'est lui qui nous traverse. Si Khalil représentait ce train pour certains des hommes de Torrent, cela n'empêcherait pas Roman de dormir. Après ce qu'ils avaient fait à son père, c'est tout ce qu'il méritait. « Fais ce que t'as à faire », conclut-il avant de terminer son café. La réputation de l'hôtel Haussmann était fondée sur une légende. Apparemment, Brice DJ Pancake, aussi surnommé l'un des plus grands écrivains dont vous n'avez jamais entendu parler, avait passé une nuit dans la chambre 127 après avoir donné une conférence à l'Université de Virginie. La preuve irréfutable, les lettres BDJP qu'il aurait gravées derrière sa table de chevet à l'angle de deux murs. Alors qu'il patientait dans le lobby en compagnie de Torrent et Tranquil, Roman venait d'entendre le concierge raconter cette histoire à un client.
« Je pense que c'est une mauvaise idée », maugréa Tranquil. « Il a dit qu'il voulait le rencontrer, alors il va le rencontrer », répliqua Torrent.
Roman était installé dans un fauteuil à proximité d'une immense baie vitrée. Torrent et Tranquil, eux, avaient opté pour un banc en plastique rose fluo. Dehors, la circulation était particulièrement dense sur Broad Street, l'artère la plus fréquentée de Richmond. Roman fit défiler ses contacts sur son portable jusqu'à trouver celui de Jay, puis il lui envoya un texto lui demandant si elle voulait qu'il lui prépare à dîner. Sans surprise, elle répondit par une plaisanterie salace accompagnée d'un emoji représentant un diable.
« J'ai déjà une idée pour le dessert. »
Il lui adressa un emoji ange et rangea son téléphone, mettant fin temporairement à leur badinage électronique. Il mentait à Jay. Il avait de bonnes raisons de le faire, mais ça n'en restait pas moins des mensonges. Des mensonges qui constituaient les sables mouvants sur lesquels ils construisaient leur relation. De fait, Roman ne voulait pas se contenter de leurs extraordinaires parties de jambes en l'air. Car si Jealousy était ouverte à ses désirs si particuliers, elle avait surtout le don de repérer les trous dont son cœur était criblé et de les reboucher. Et pourtant, il prenait le risque de tout sacrifier dans le seul but d'entraîner la chute de ses frères.
« Ce sera mieux pour elle quand ils ne seront plus une menace », se dit-il. « Ce sera mieux pour tout le monde. »
Ce mensonge était le plus facile à formuler, car il était celui qu'il se racontait à lui-même. La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Et un homme à la peau brun pâle en sortit. Il portait un pull à col roulé noir qui ne parvenait pas à dissimuler son cou de taureau. Il s'approcha de Roman et des frères Gilchrist et les fouilla rapidement de ses énormes mains.
« Allons-y » ordonna-t-il.
L'homme tourna les talons et repartit vers l'ascenseur sans autre indication, suivi de Torrent et Tranquil. Roman leur emboîta le pas. Pendant l'ascension, personne ne prononça le moindre mot, et Roman regarda la flèche au-dessus de la porte de la cabine progresser de numéro en numéro jusqu'à s'immobiliser sur le dernier, le 14. Les portes s'ouvrirent, révélant un bar en rooftop. 6 immenses baies vitrées offraient aux clients une vue panoramique sur le centre-ville de Richmond, avec ses anciens entrepôts réhabilités, ses immeubles de bureaux flambant neufs, ses fresques qui s'élevaient sur 8 étages et les bâtiments tout en briques de la Virginia Commonwealth University. Le bar en lui-même proposait un décor classique et élégant, teinté de petites touches postmodernes. Le sol était ainsi recouvert d'un parquet en teck, sur lequel étaient disposées des tables et des chaises de la même essence, mais aux formes alambiquées. Derrière le comptoir qui occupait toute la longueur, Roman remarqua dans la vitrine une excellente sélection de spiritueux, parmi lesquels une bouteille de Pappy Van Winkle, un bourbon qui devait coûter dans les 2 500 $. Le soleil couchant était un diamant jaune dont les multiples facettes projetaient leur lumière rasante sur les baies vitrées. En tout, il n'y avait que 2 personnes dans le bar. Le barman, qui essuyait des verres avec l'attitude de celui qui en a vu beaucoup, mais qui a toujours eu le bon goût de se taire, et un homme assis à une table, près de la baie vitrée du fond. Roman devina que cet homme était grand, peut-être aussi grand que Khalil. Il avait le crâne rasé, mais une épaisse barbe constellée de reflets blancs, une nappe noire sur laquelle on aurait renversé du sucre. Et sa peau était légèrement plus sombre que celle de Roman. Il portait un costume sur mesure gris foncé, dont Roman était presque sûr qu'il était siglé Huntsman & Sons, le fameux tailleur londonien chez qui rien ne coûtait moins de 10 000 $. Posséder un costume de cette maison prestigieuse faisait partie des rêves de Roman. Le gorille au col roulé s'adossa au mur, juste derrière celui qui devait être son patron. Roman n'était pas un spécialiste, mais il devina que la protubérance au niveau de la hanche droite du garde du corps correspondait à un pistolet, ce qui n'avait rien d'inhabituel, étant donné que le port d'armes était autorisé en Virginie. En revanche, s'il en jugeait par les vêtements hors de prix que portait l'homme assis à la table et le protocole rigoureux qu'ils avaient dû suivre pour le rencontrer, il était évident qu'il s'agissait de quelqu'un de très riche ou de très dangereux. Ou les deux. « Asseyez-vous dedans », indiqua-t-il d'une voix caverneuse de narrateur de bande-annonce, derrière laquelle perçait un accent du sud-est de la Virginie. Ce n'était pas une invitation, et tous trois prirent aussitôt place en face du chauve à l'épaisse barbe, qui posa les mains sur la table et entrecroisa les doigts. Roman nota qu'il portait au poignet une banale Timex, avec un bracelet en cuir. Il arbore un costume sur mesure à 10 000 $, alors que sa montre en vaut à peine 200, observa-t-il. Sauf que cela, un non-initié ne pouvait pas le deviner. « Roman, Torrent m'a confié que tu lui avais fait gagner beaucoup d'argent avec ce projet de construction dans le Skids. » commença-t-il. « Presque assez pour compenser la planque qu'il a laissée brûler. » Roman enregistra tout ce que son interlocuteur lui disait, ainsi que la façon dont il le disait. Torrent l'avait décrit comme une connexion, un fournisseur, mais il était évident que cet homme n'était pas l'associé des Gilchrist. Non, c'était un boss. « Oui, on s'est plutôt bien débrouillé, » bredouilla-t-il. « Ne fais pas le modeste. Rien qu'avec ton idée de gonfler les factures, les contrats de démolition vous ont déjà rapporté 700 000 $. J'ai eu une petite discussion à ce sujet avec M. Gravely il y a quelques jours. Figure-toi qu'à côté de mes activités principales, je m'intéresse beaucoup à l'immobilier. Cet endroit, par exemple, » ajouta l'homme en écartant les bras. « Vous êtes le propriétaire de ce bar ?» demanda Roman. « Je suis le propriétaire de cet immeuble, » répondit l'autre, avec un semblant de sourire. « Mais venons-en au fait. Mon affiliation avec les BBB remonta il y a très longtemps. Je connaissais leur père, Horace. Notre partenariat s'est révélé très lucratif au fil des années, mais je crois en la diversification. » J'ai mes propres conseillers financiers qui gèrent mes investissements comme de bons petits employés de bureau, terrifiés à l'idée de faire un pas de côté. Et c'est ce que j'attends d'eux. Ils se débrouillent pour que la police et le fisc ne s'intéressent pas à moi. Toi, par contre, tu n'as pas peur de te montrer créatif, disons. Il se laissa aller contre le dossier de son fauteuil et adressa un signe de la main à son garde du corps, lequel lui tendit aussitôt une enveloppe. Tu as peut-être entendu parler d'un hippodrome dans le comté de New Kent. On y fait de la course de plat, du trot attelé, toutes ces conneries d'Aristo auxquelles je n'ai jamais rien compris. Mais bref, il y a un type qui va là-bas tous les week-ends depuis des années. Et tous les week-ends, il parie sur le mauvais cheval. Au lieu de changer de passe-temps, il a eu la brillante idée de contracter un crédit auprès de gens qui travaillent pour moi. Franchement, c'est désolant. Mon père a dit un jour que celui qui ne contrôle pas ses vices finit par en devenir l'esclave. Bon, juste après, il a mis une cartouche de chevrotine dans la tête de ma mère avant de retourner le fusil à pompe contre lui. Mais je digresse. Il se trouve que ce parieur compulsif travaille pour le service de gestion de crise du département de Virginie. En gros, il s'occupe de tout ce qui touche à l'achat de matériel en cas de catastrophe naturelle. Je veux que tu lui parles et que tu l'aides à se montrer inventif dans son intendance. Fais pour moi ce que tu as fait pour Torrent et les Bibibi. Crée une société écran. Force notre parieur à te refiler les contrats qu'il a avec ses fournisseurs et ensuite, tu récupères l'argent et tu déploies tes talents de magicien. Assez simple, non ? Roman aurait poussé un soupir de soulagement s'il n'avait pas craint que son interlocuteur ne le prenne pour un signe de faiblesse. Car l'homme au costume sur mesure avait raison. C'était assez simple. Roman était capable de créer une société écran les yeux fermés. En revanche, il y avait d'autres paramètres à prendre en compte. Ce parieur compulsif, comme vous dites, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Est-ce qu'il sait s'il existe une clause d'indexation des paiements qui pourrait déclencher un audit automatique ? Est-ce qu'il est à même de faire des virements vers des comptes offshore ? Ce sont des questions que je lui poserai quand je le verrai, mais je préfère que vous ayez conscience des risques encourus. Je suis en mesure de vous protéger de la plupart des complications d'ordre légal, mais s'il se fait arrêter et qu'il se met à parler... Il terminera éparpillé dans plusieurs juridictions en même temps, compléta l'autre. Il y avait une nonchalance dans la façon dont il avait évoqué la manière de se débarrasser d'un corps qui fit frémir Roman. Celui-ci se rappela alors qu'il avait lui aussi une certaine expérience en la matière et qu'il n'était donc pas le mieux placé pour juger. « Sauf que je ne suis pas comme lui, » se dit-il. « Je ne suis pas comme Torrent et Tranquille. Je n'en tire aucun plaisir, ça ne m'excite pas. Et ça ne deviendra jamais quelque chose de normal pour moi. » Très bien, conclut-il, en tendant la main vers l'enveloppe. Il avait conscience qu'avec cet homme, plus encore qu'avec les frères Gilchrist, le choix des mots était important. L'homme au costume l'examina longuement, et Roman se demanda si c'était parce qu'il était admiratif ou parce qu'il essayait d'imaginer à quoi ressemblerait sa tête plantée sur une pique. « Tu poses de bonnes questions, Roman. Les gens négligents ont tendance à foncer tête baissée. Ils n'anticipent pas les déconvenus. Je te laisse 3 mois pour monter cette société fantôme, recevoir les premiers versements et les faire fructifier. Torrent m'a dit que tu lui avais obtenu un retour sur investissement de 50%. J'attends la même chose. Bien sûr, il ne sera pas question d'argent de poche cette fois. Je te parle de nombres à 7 chiffres. Mais c'est dans tes cordes, pas vrai ? C'est dans mes cordes, acquiesça Roman, la main toujours tendue. Et je n'ai pas besoin de t'expliquer ce qui se passera si ta magie n'opère pas, n'est-ce pas ? Ce ne sera pas nécessaire, non. L'homme lui donna enfin l'enveloppe. « Parfait, » dit-il. « Et maintenant, mangeons. Le saumon à la Louisiane est excellent. En même temps, j'ai prévenu le chef qu'il avait intérêt à s'appliquer. C'est mon plat favori. » Plus tard, alors qu'ils regagnaient leurs véhicules respectifs, Roman demanda à Torrent. « Qui c'était ? Il a dit qu'il connaissait votre père. Il fait partie de votre famille ? » Il savait très bien que non. Mais il préférait jouer les naïfs. S'il insinuait que les frères Gilchrist n'étaient que de simples subalternes, Tranquille risquait de lui mettre une balle dans la tête, rien que par principe. Le moyen le plus sûr d'obtenir une réponse était de ne froisser personne. Tranquille se contenta d'un grognement, et s'installa au volant de la BMW noire.
Il se fait appeler Shade, dit Torrent. C'était le meilleur ami de notre père. Ensuite, notre père s'est retrouvé derrière les barreaux et Shade a fait fortune. Mais il a continué à donner de l'argent à ma mère, jusqu'à ce que Tranquille et moi soyons en âge de gagner notre vie nous-mêmes.
Ça, c'est un vrai ami, commenta Roman, qui réprima un mouvement de recul en voyant l'expression changer d'un coup sur le visage du gangster.
Ce fils de pute n'a pas d'amis, répliqua Torrent,
en montant à bord de la BMW.
Le diable n'a pas d'amis.
De retour à la maison, Roman trouva Dante vautré dans le canapé en train de regarder la télé. Sur la table basse, un gros mug avec le logo du Punisher, le super-héros préféré de son frère. Roman se souvenait de l'histoire de ce mug. C'était lui qui l'avait gagné à la foire du comté de Matthews, l'été avant la disparition de leur mère. Un jeu de basket où il fallait mettre un certain nombre de paniers en un temps imparti. Il avait rempli l'objectif avec encore 2 secondes sur le chronomètre. Roman avait jeté son dévolu sur une figurine Spider-Man, mais Dante voulait tellement ce mug qu'il avait été obligé de céder. Il n'avait jamais rien pu refuser à son frère.
« Qu'est-ce que tu fais là ? » demanda-t-il.
« Je te croyais chez Tug. »
« J'y étais, mais Lousteau a appelé parce que l'état de Reynel s'est aggravé, et il a dû partir. Du coup, je suis rentré.
Je suis désolé de l'apprendre. »
Dante ne répondit rien. Il porta le mug à ses lèvres et avala en grimaçant.
« Tu picoles alors que le soleil n'est pas encore couché ?» lui reprocha Roman.
« Qu'est-ce que ça change ? Reynel risque d'y passer. Et c'est ma faute. »
Dante but une autre gorgée. Roman s'assit à côté de lui sur le canapé.
« Non, c'est pas de ta faute. Si tu dois accuser quelqu'un, accuse le Ghoston Crew. Accuse Torrent. Accuse Jefferson Run. Mais toi, tu y es pour rien. D'accord ?»
« C'est gentil d'essayer de me rassurer », soupira Dante avec un demi-sourire. « C'est pas pour ça que ce que tu dis est vrai. »
Le sourire disparut.
« Il faut que je t'avoue quelque chose »,
confia-t-il, et Roman croisa les jambes.
« Vas-y, je t'écoute. »
« J'ai eu des nouvelles de Cassidy. Elle veut savoir si elle peut rentrer. »
L'estomac de Roman se noua. Il s'efforça de parler d'un ton mesuré.
Et tu lui as répondu que c'était pas possible, hein? Tu lui as expliqué que le monde entier la croyait morte et qu'elle ne pouvait pas remettre les pieds ici. C'est ce que tu lui as dit, rassure-moi.
Ouais, mais elle avait pas trop l'air d'écouter. C'est comme si ça lui passait au-dessus de la tête,
ajouta Dante en mimant le geste pour illustrer son propos.
Elle peut pas rentrer, frangin. Pas encore. Je suis pas loin de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Mais si elle revient maintenant, on est tous morts. « Toi, moi, Nevea, papa, tout le monde. Alors débrouille-toi pour lui faire entendre raison. Il faut qu'elle comprenne la gravité de la situation. »«
Est-ce que tu serais capable de lui faire du mal, Rome ? Tu t'en prendrais pas à elle, hein ?»
Il y avait une telle fébrilité dans la voix de son frère que Roman sentit son cœur se serrer.
« Bien sûr que non, Dante. Mais je peux pas en dire autant de Torrent et Tranquille. S'il tombe sur elle... Ils hésiteront pas une seule seconde. Ils la tueront. Tu te souviens comme ils étaient furieux contre Getty et toi? Alors imagine un peu leur réaction s'ils se rendent compte qu'on leur a menti. Surtout qu'ils en déduiront vite qu'on a tué Splody. Donc non, elle reste où elle est. Si elle a besoin d'argent, pas de problème. Mais elle ne remet les pieds à Jefferson Run sous aucun prétexte. Est-ce que tu m'as compris?
Je t'ai compris, soupira Dante en saisissant son mug. J'ai aussi compris que Reynel se battait sur son lit d'hôpital, avec dans les veines le sang d'un donneur inconnu. J'ai compris que Getty était mort, que Splody était mort, et aussi Yellow Boy, 4 personnes au Candies et 6 personnes à la boutique de cigarettes électroniques. J'ai compris que les trottoirs de la ville étaient couverts de sang parce que j'ai fait une connerie et que tu essaies de la réparer. Par contre, je refuse d'avoir la mort de Cassidy sur la conscience. Est-ce que tu le comprends, ça ? Je vais lui parler... Mais si elle se pointe ici, on n'aura pas d'autre choix que de la protéger.
Il vida le contenu de son mug et conclut.
Je monte dans ma chambre.
Il se leva, bouscula à moitié son frère et se dirigea vers l'escalier. Roman ne le regarda pas s'éloigner. Sa tête était remplie d'images qui auraient dû avoir leur place dans ses cauchemars. Des images de Dante ligoté sur le fauteuil à la ferme. Des images de Nevea, immobile et pâle comme un matin d'hiver. De son père, étendu sur le dos, tandis qu'un aide-soignant ou un infirmier qui devait de l'argent à un dealer local s'apprêtait à lui appuyer un oreiller sur le visage contre la promesse d'une dette annulée. Il ferma les yeux, se couvrit la bouche et poussa un grognement si grave et si puissant qu'on aurait dit un ours à qui on avait mis un bâillon. Son téléphone émit une vibration. C'était Keisha, son assistante. Il décrocha. Son ancienne vie lui paraissait si lointaine qu'il avait le sentiment de regarder un point à l'horizon. « Bonjour, Keisha. Quoi de neuf ?»«
Écoutez, je suis désolé de vous déranger alors que je me doute que vous êtes très occupé avec votre père, mais le président Taylor panique à cause d'un projet d'investissement dont il a discuté avec vous. J'ai aussi reçu un appel des représentants des Atlanta Braves qui souhaitent que vous organisiez une réunion avec leur dernière recrue, mais surtout, Lil Glock veut vous voir. Il accepterait que ce soit par Zoom. Apparemment, c'est une question de vie ou de mort. »
Je suis certain que non, mais admettons. Il voudrait faire ça quand ?
Dès maintenant, si possible. Je vais vous faire un résumé rapide de la situation. Il a investi beaucoup d'argent pour acquérir des immeubles à l'abandon dans sa ville natale de Caroline du Sud, dans le but de les rénover. Et il vient de se rendre compte que c'était une arnaque. Il a découvert que l'ami qui lui a parlé de ce plan et qui était censé s'occuper de tout était en fait le propriétaire de ses biens. De sorte que...
Que cet ami a vendu les immeubles à Lil Glock largement au-dessus du prix du marché et qu'il n'a aucune intention de les rénover, compléta Roman. Il a probablement déjà transféré l'argent de Lil Glock aux îles Caïmans ou sur un compte de crypto anonyme et il a disparu dans la nature.
Voilà. Et maintenant, Lil Glock aimerait savoir comment il peut récupérer sa mise.
On parle de combien ? Keisha attendit quelques secondes avant de répondre.
4 millions de dollars.
Roman secoua la tête. Ça représente presque la totalité de ses avoirs, soupira-t-il, en se levant du canapé. Ce pauvre Lil Glock devrait se limiter à la musique. Les affaires, c'est pas son truc. Laissez-moi une demi-heure, Keisha. Je n'ai pas emporté mon ordi. Il faut que je passe au crématorium pour utiliser celui de mon père. Il quitta la maison et s'installa au volant de la Challenger. Un peu plus bas dans la rue, une berline bleu nuit banalisée était stationnée derrière la boutique condamnée d'un ancien prêteur sur gage. La vitre se baissa, et, telle une vipère sortant de son trou, un téléobjectif émergea par l'ouverture. « Dis cheese, enfoiré !» murmura Chauncey. Et il prit plusieurs photos de Roman, de la Challenger et de la plaque d'immatriculation.